Mais par contre, dans la partie orientale de l'Empire, les choses continuent à être extrêmement terribles pour les chrétiens. C'est ainsi que, d'après Z, des villages entiers en Phrygie, où la plupart des habitants sont chrétiens, sont massacrés systématiquement, chrétiens ou non. À ce moment, on a trouvé qu'il y avait une majorité de chrétiens dans ces villages, on massacre tout le monde, n'est-ce pas, et on n'en parle plus. Alors il est évident que ce traitement extrêmement brutal continue à se retourner contre Dioclétien et Galère. Dioclétien, malgré le fait qu'il s'est retiré officiellement des affaires, continue tout de même à surveiller d'assez près ce qui se passe. Et l'étoile de ces deux hommes pâlit considérablement. On sait que, par exemple, dans le pont, dans la Cappadoce, il y a de nombreux chrétiens qui sont martyrisés encore à cette époque-là. Et puis, Dioclétien invente alors une nouvelle forme de supplice, notamment pour les petites gens, les gens de l'aristocratie et bien entendu les clercs, eux sont systématiquement massacrés, mais pour les gens du peuple, les gens simples, les gens qu'on considère comme finalement des ignorants, eh bien Dioclétien invente un nouveau type de supplice, soit que ces gens-là sont éborgnés, soit qu'ils sont estropiés. On leur casse une jambe, etc., on leur coupe. Et ces gens-là, donc, sont estropiés. Et ensuite, à partir du moment où on les a ainsi traités, on les déporte dans des mines, notamment en Égypte, en Israël, dans les fameuses mines de Roi Salomon, qui sont à côté des Lattes. De nombreux malheureux ainsi traités se sont retrouvés déportés par la furie aveugle de ces gens-là. Dans ces lieux, on essaye justement aussi de les faire sacrifier. Et ainsi, l'Empire, la partie orientale de l'Empire, se couvre de longues caravanes d'invalides qui sont entraînés pour travailler dans ces mines de sel et ou de cuivre. Lorsque, bien entendu, en raison de leur infirmité, bon, ceux qui sont morts, ça peut encore aller, mais ceux qui sont estropiés, évidemment, ont beaucoup plus de mal à travailler. Et c'est ainsi qu'en 310 et en 311, la persécution monte encore d'un cran. Ces gens qui sont considérés comme des improductifs et comme des incapables, eh bien, s'ils refusent de sacrifier aux dieux, dans les mines, même où ils sont déportés, sont systématiquement massacrés. On apprend que, notamment, ceux qui ont malgré tout continué à pratiquer leur culte dans les mines, parce que très vite dans les mines se sont organisées des communautés de ces gens, estropiés, etc., qui ont créé des espèces de lieux de culte, où ils continuent à prier le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et là, dans leur déportation même, n'est-ce pas, eh bien, le pouvoir les traque, les poursuit et finalement les massacre. Donc, je crois que là, on ne peut qu'être frappé par la grandeur et l'égoïsme de ces gens qui étaient souvent des uns, n'est-ce pas, et qui ont préféré 1000 tourments et 1000 supplices plutôt que d'abjurer leur foi. Et il faut dire que la plupart des saints du calendrier, quand on lit les listes des martyrs qui sont encore considérés comme saints par l'Église catholique aujourd'hui, il y a des longues listes de martyrs qui ont été canonisés par l'Église catholique, qui ne sont pas tous dans le calendrier, parce que le calendrier n'a que 365 jours. Mais il faut dire que l'essentiel de ces listes de martyrs, qui sont considérés comme saints de l'Église catholique, ont été martyrisés pendant cette grande persécution de Dioclétien. Finalement, cette grande persécution de Dioclétien, à elle seule, a fourni plus de martyrs que l'ensemble des autres persécutions qui avaient agi jusque-là. Maintenant, parmi les membres du clergé, dans le cours de cette persécution, eh bien, un certain nombre d'entre eux n'avaient pas joué un rôle particulièrement intéressant, et le pouvoir avait réussi à retourner un certain nombre de membres du clergé, qui étaient devenus des indicateurs, et qui dénonçaient au pouvoir romain les membres de leur communauté, comme hélas, ça se fait encore aujourd'hui dans certains pays totalitaires. Et pour acheter leur paix, un certain nombre de prêtres, d'évêques, etc., ont ainsi trahi d'une manière abominable ceux qui avaient mis en eux leur confiance. En 311, Galère tombe malade. Et d'après Eusèbe, sentant sa fin prochaine, galère, réalisant qu'il est frappé par la colère divine à cause de ses excès, se repent sur son lit de mort et publie un édit de tolérance qui met fin à la persécution. Je pense qu'il faut voir les choses d'une manière quelque peu plus prosaïque et considérer que Galère a compris, a tiré la leçon de l'échec politique que la persécution représentait, que finalement il était en train de s'aliéner une grande partie de ses sujets, dans la mesure où un grand nombre d'entre eux étaient chrétiens, et un grand nombre d'entre eux avaient des sympathies chrétiennes qu'ils n'osaient pas avouer justement à cause de la dureté des temps. Mais il y avait aussi un autre élément qui intervenait. C'est que dans la partie, encore une fois, occidentale de l'Empire, eh bien, comme on sentait que Galère et Dioclétien vieillissaient et que eh bien, leur jour était compté, bien entendu, lorsqu'un empereur arrivait à sa fin, le problème de sa succession dans l'Empire romain était toujours un très très grave problème. Et très souvent, le décès d'un empereur provoquait des guerres civiles dans l'Empire entre les différents prétendants à la couronne impériale jusqu'à ce que l'un d'entre eux, évidemment, parvienne à éliminer les autres. Et là, quand on sentait que Dioclétien et Galère s'affaiblissaient, un certain nombre de successeurs possibles se sont dessinés. Il y en avait en particulier deux. D'un côté, donc, Constantin, qui était César donc, dans la partie orientale, dans la partie occidentale, finalement, et puis un autre, l'autre César, qui se trouvait à Rome, qui se nommait lui Maxence. Et Galère avait compris que le triomphe éventuel de ces deux hommes était possible dans la mesure où, justement, ils auraient l'appui des chrétiens. Et pour couper l'herbe sous les pieds à Constantin, dans lequel déjà les chrétiens voyaient leur champion, parce que déjà Constantin avait fait des promesses et ils avaient tenu dans la partie qui était en son pouvoir, sous sa juridiction, par conséquent, les chrétiens voyaient véritablement dans Constantin leur champion, et Galère avait compris que là, eh bien, il risquait une révolte généralisée contre son pouvoir. C'est pourquoi il avait décidé de couper l'herbe sous les pieds à Constantin en publiant en 311 un édit de tolérance. Mais hélas, pour lui, il était tombé malade quelque peu après. Il était tombé malade, il était mort quelque peu après. Et c'est alors que les choses vont se brusquer. Maxence, en principe, est l'héritier de Galère, encore que Maxence ne soit pas un ennemi des chrétiens. Maxence est un homme qui est suffisamment habile et suffisamment politique pour avoir compris la faute qu'ont fait Dioclétien et Galère en persécutant les chrétiens. Et pour sa part, Maxence est fermement décidé à revenir au statu quo ante, c'est-à-dire sans reconnaître officiellement le christianisme comme religion d'État, à lui accorder un statut de tolérance. Par conséquent, entre Maxence et Constantin, finalement, pour les chrétiens, c'est à peu près la même chose, en fin de compte. Seulement, Constantin, lui, a, comprenant cela, a décidé d'aller plus loin. Et il a ouvertement fait savoir aux chrétiens que s'il avait le dessus dans la lutte qui maintenant allait l'opposer à Maxence, non seulement il abolirait les mesures prises par Galère et par Dioclétien, ce qui, de toute façon, Maxence aurait fait, mais en plus de ça, eh bien, il ferait du christianisme une religion licite, une religion qui serait placée sur le même plan que les religions païennes. Alors, il est évident que dans tout l'Empire, où cette nouvelle arrive, les chrétiens se rallient sous la bannière de Constantin. Fort de cet appui, Constantin, au moment de la mort de Galère, brusque les choses, il rassemble son armée, passe les Alpes en un temps record, franchit les Alpes, et arrive par surprise de l'autre côté, sur le versant italien. Et il pénètre en Italie. Il prend un certain nombre de villes qui, les unes après les autres, tombent sous son pouvoir. Maxence, bien entendu, réagit. Il se porte à sa rencontre avec une armée importante. Et c'est alors que va avoir lieu la fameuse bataille qui va mettre aux prises Constantin et Maxence. Là, justement, intervient une légende. Je crois que c'est une légende qui n'a aucun fondement historique, mais qui, dans la légende chrétienne, a pris une grande importance. La bataille était, le sort de la bataille qui devait avoir lieu pour Commibus le lendemain était incertain. Et Constantin aurait ce jour-là, pour la première fois de sa vie, prié le Dieu des chrétiens. Et il aurait fait un vœu, il aurait dit: Dieu des chrétiens, Jésus-Christ, etc., si tu me donnes la victoire, eh bien, je donnerai à ton Église la possibilité de vivre en paix librement. Et cette nuit-là, Constantin, après avoir prié ainsi, aurait eu une vision. Il aurait eu une grande croix dans le ciel. Et le Seigneur lui disait: Eh bien, par ce signe, tu vaincras. Le lendemain, Constantin aurait remplacé les aigles de ses légions par des enseignes sur lesquelles il y avait la croix. On trouve d'ailleurs toujours dans les armes du Vatican, la croix entrelacée avec des fioritures qui viennent de l'intérieur. Et la bataille, donc, aurait été engagée le lendemain pour la possession de ce fameux pont. Et au cours de la bataille, Maxence est tombé à l'eau et s'est noyé, en 312. Bien entendu, tout cela est légendaire. C'est des bruits qui ont couru d'abord spontanément parmi le peuple, parce qu'il est vrai que peu de temps après, donc, disons pas sa conversion christianine, parce que finalement Constantin ne s'est fait baptiser que sur son lit de mort, c'était pratiquement la coutume à ce moment-là pour beaucoup de gens. Mais disons, à partir du moment où il est devenu empereur et il a donc employé une politique favorable à l'Église, effectivement, Constantin a fait remplacer les aigles romaines par des croix. Et spontanément, eh bien, cette légende est née, notamment justement, on trouve ça chez Lactance et chez d'autres, que ce serait à la suite d'une révélation du Seigneur. Bien entendu, Constantin, qui avait tout intérêt à accréditer cette légende, aurait ensuite affirmé lui-même qu'il a bien été l'objet d'une vision de ce type. En fait, là, nous sommes à fond dans une légende, bien entendu. Vous pensez bien que la croix, symbole de dénuement, symbole de renoncement à toute violence, à toute puissance, etc., ne pouvait pas devenir le symbole d'une victoire, et que là, nous sommes dans une vision absolument anti-biblique des choses, que cette vision n'a aucune base biblique, et par conséquent, au nom de ce que la Bible nous dit de la croix, nous devons rejeter une pareille sommette. Mais il est évident que c'était très politique pour Constantin d'accréditer cette légende qui circulait sur son compte, et puis ensuite de prétendre officiellement qu'effectivement, à la fin de son règne, Dieu révèle cela, il avait réellement eu une vision de ce type. Alors, immédiatement, donc, Constantin, eh bien, à Milan, publie le fameux édit de tolérance, 313. Mais la lutte n'est pas terminée pour le pouvoir. Et un peu partout, des rivaux continuent à s'agiter pour disputer le pouvoir à Constantin. Et c'est ainsi que l'édit de tolérance a valeur uniquement dans la partie que Constantin contrôle. Mais dans d'autres parties de l'Empire, la persécution continue. Et elle va continuer jusqu'en 324, à l'époque où Constantin parvient à éliminer tous ses rivaux. Et là, donc, il confirme l'édit de Milan pour l'ensemble de ses États. D'ailleurs, c'est là qu'il élève à Rome le fameux arc de triomphe, dit arc de Constantin, qui est encore un des monuments les plus prisés, les plus visités, les plus spectaculaires de la ville de Rome. Mais Constantin, maintenant, va aussi agir d'une manière un peu différente sur le plan politique. Il va délaisser Rome en tant que capitale de l'Empire. Et il crée sur le Bosphore, dans une ville qui se nommait jusqu'alors Byzance, et qui était en même temps une ville qui était proche des frontières orientales de l'Empire menacée par la Perse, comme nous l'avons vu, une capitale nouvelle, qu'il reconstruit de fond en comble, d'une manière splendide, dont il veut faire une nouvelle Rome, et à laquelle il donne modestement et chrétiennement son nom, Constantinople, n'est-ce pas? C'est-à-dire la ville de Constantin. Et cette ville est la première ville chrétienne, dans ce sens que il n'y a aucun temple païen dans Constantinople, il n'y a absolument aucun culte païen qui est célébré, le seul culte officiel, le seul culte licite, c'est le culte chrétien. Constantin d'ailleurs construit une magnifique cathédrale, une magnifique église, qu'il nomme Sainte-Sophie, pas, qui existe encore, mais qui aujourd'hui est une mosquée. À Istanbul, qui a remplacé Constantinople, en Turquie. Et cette ville va lui permettre, depuis là, de contrôler beaucoup plus facilement la partie orientale de son empire, qui est la partie la plus menacée, finalement, de ses États. Et c'est alors que commence pour l'Église une période tout à fait nouvelle, la période dite de la paix de l'Église. Et nous en resterons là, si vous voulez, quelque part. Est-ce que vous avez rapidement des questions à poser sur cette... Bien, alors nous reprenons notre étude de l'histoire de l'Église ce soir, et nous allons voir maintenant une époque essentielle dans l'histoire de l'Église, c'est le IVe siècle. Une époque essentielle pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord parce que c'est un siècle qui est un tournant pour l'histoire de l'Église, où nous assistons au dernier soubresaut du paganisme agonisant et par conséquent aux dernières persécutions religieuses de l'époque romaine contre le christianisme en tant que tel. Puis ensuite, à cause d'une véritable révolution, l'Empire romain, qui avait été hostile au christianisme et qui l'avait combattu de la manière que l'on sait, va reconnaître, avec l'avènement de Constantin, la légitimité du culte chrétien. En 313, Constantin publie l'édit de Milan, l'édit de tolérance, l'édit de Milan, 313, au terme duquel le christianisme devient religion licite, culte reconnu, de plein pied égal avec les cultes païens. Et c'est évidemment pour l'Église un véritable triomphe, en ce sens que maintenant la foi chrétienne va pouvoir se développer tout à fait librement. Mais nous allons voir aussi dans notre étude de cette période quels étaient les sous-entendus du pouvoir romain en adoptant cette disposition vis-à-vis du christianisme. C'était un acte politique. Et un acte politique dans lequel l'Église allait se trouver piégée. Après un court intermède, avec une tentative de retour du paganisme sous des successeurs de Constantin, Julien dit l'apostat, le christianisme va connaître alors une nouvelle consécration sous Théodose, qui va non seulement confirmer l'édit de Constantin, l'édit de tolérance, mais qui va faire du culte chrétien le culte officiel de l'Empire romain. Théodose. Le culte officiel de l'Empire romain, c'est-à-dire qu'il supplante les cultes païens. Jusqu'alors, sous Constantin, il était sur un pied d'égalité avec les cultes païens. Avec Théodose, il devient la seule religion officielle de l'Empire romain. Et ce faisant, l'Église, hélas, à son tour, ne va pas tarder à devenir persécutrice de persécutés qu'elle avait été quelques années plus tôt. Alors, rien que pour cette réalité, le IVe siècle est un siècle charnière, un siècle tournant pour l'histoire du christianisme, parce que nous allons maintenant voir se mettre en place ce qui était déjà en ferment dans l'Église du IIe et du IIIe siècle, c'est-à-dire finalement l'Église en tant que pouvoir, et maintenant le pouvoir va s'affirmer. Et avec l'édit de Milan, et surtout avec Théodose, nous entrons dans la vision de l'Église médiévale, l'Église puissance temporelle, puissance politique, l'alliance du trône et de l'autel, et par conséquent, le césaropapisme. En fait, l'accomplissement de la vision d'Apocalypse, la prostituée qui chevauche la bête. N'est-ce pas ? Alors, rien qu'à ce niveau-là, donc, cette période est capitale. Mais ce triomphe, entre guillemets, du christianisme, parce que nous allons voir qu'il faut nuancer cette expression, ce triomphe du christianisme ouvre la voie à tout un ensemble de conséquences secondes, notamment le fait que la réflexion théologique, qui n'avait pas pu se faire d'une manière toujours idéale dans les siècles précédents, à cause justement des persécutions, va maintenant pouvoir se donner libre cours. Et non seulement la réflexion théologique, mais disons la spéculation théologique. Une spéculation théologique qui aboutira, vous savez, aux fameuses discussions, pas au IVe siècle plus tard, sur le sexe des anges, et par conséquent, à une évolution du christianisme dans un sens qui va de plus en plus être philosophique, rationnel, donc qui va se dessécher en même temps que s'institutionnaliser. Et il va y avoir, malgré cela, des acquis extrêmement positifs qui vont avoir lieu. C'est qu'au travers de toute cette effervescence théologico-philosophique qui éclate au IVe siècle parce qu'il y a la paix de l'Église, surgissent des hérésies. Bon, des hérésies, il y en avait déjà eu dans les siècles précédents. Mais cette fois-ci, on va pouvoir intervenir contre les hérésies. Au besoin, par la force, on ne s'en privera pas, mais aussi par la réflexion théologique. Et vont être maintenant mis au point des grandes formulations dogmatiques, les grandes formulations de la foi, notamment au niveau de la christologie, c'est-à-dire de la doctrine de Christ, sur lesquelles nous reviendrons en doctrine, justement, et qui vont être l'œuvre des conciles œcuméniques. Le IVe siècle, c'est le IVe et Ve siècle, ça commence au IVe siècle, c'est l'âge des grands conciles œcuméniques. C'est-à-dire du rassemblement des représentants de toutes les églises du monde romain et qui vont se pencher justement sur les problèmes posés par les hérésies et qui, à partir des textes bibliques, vont entourer, si j'ose dire, la doctrine de toute une barrière de formulation extrêmement précise qui vont établir la doctrine sur les choses essentielles pour l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, la réforme du XVIe siècle, si elle a remis en question, d'une manière totale et radicale, toute la tradition postérieure à l'époque apostolique, si elle a remis en question d'une manière radicale, les formulations théologiques émanant des papes, émanant des synodes et émanant des conciles, la réforme du XVIe siècle ne remettra pas en cause les acquis des grands conciles œcuméniques du IVe et du VIe siècle. Et ce sont ces formulations dogmatiques qui aujourd'hui font l'unanimité de la chrétienté tout entière, que ce soit la chrétienté romaine, que ce soit la chrétienté orthodoxe orientale, ou que ce soit la chrétienté protestante. Il n'y a plus, hélas, aujourd'hui que quelques... de plus en plus de protestants, justement, ce sont eux qui remettent en question ces formulations dogmatiques, non pas pour des raisons bibliques, au contraire, mais à cause du libéralisme théologique qui s'introduit dans leur sein. Alors, donc, c'est essentiel. C'est une période essentielle pour le christianisme, parce que là sont posées une fois pour toutes, à partir de l'Écriture, les grandes vérités, les grandes formulations. Et je pense que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, on n'est pas arrivé à de meilleures formulations que celles qui ont été l'œuvre de ces grands conciles. Et nous allons voir que ces formulations-là n'ont pas été acquises sans problème, sans de profondes discussions, et parfois même dans des conditions qui sont un petit peu discutables. Alors, voilà, si vous voulez, comment se situe notre quatrième siècle, qui est aussi le siècle de l'organisation ecclésiastique. L'Église, qui maintenant est devenue officielle, va s'organiser, se structurer, s'uniformiser, de façon à pouvoir exercer un pouvoir. Et le système catholique, tel qu'il va exister dans la chrétienté du Moyen-Âge et d'une certaine manière jusqu'à nos jours, naît de cette alliance du trône et de l'autel. Et naît alors à ce moment-là une grande césure dans l'histoire de l'Église. Entre l'Église de l'époque pré-constantinienne, l'Église des premiers siècles, et maintenant l'Église post-constantinienne. Et il nous faut maintenant ici introduire une notion nouvelle, c'est la notion de chrétienté, qu'il faut différencier très attentivement de la notion de christianisme. Le christianisme, c'est une foi qui est professée librement par un certain nombre d'individus dans différentes nations, dans différents pays. La chrétienté, c'est le système où le christianisme fournit à un pays tout entier, ou un ensemble de pays, un empire, comme c'était le cas de l'Empire romain, le cadre dans lequel doit s'exercer toute sa vie. Le cadre institutionnel, le cadre religieux, bien entendu, et au besoin même, n'est-ce pas, les références ultimes. La chrétienté, c'est le système dans lequel on est chrétien, par le fait que l'on est dans telle ou telle nation, dans tel ou tel pays. Et c'est, d'une certaine manière, de ce système que nous sommes encore les héritiers, aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Même si, effectivement, nous sommes en train d'entrer maintenant dans une ère post-constantinienne, pour le meilleur et pour le pire. Nous allons voir qu'il y a à la fois des choses positives et des éléments extrêmement négatifs dans ce système de chrétienté, et que par conséquent, le fait que maintenant nous affranchissions du système de chrétienté est négatif par certains aspects, mais positif aussi par d'autres. Alors, voyons si vous le voulez, maintenant, dans le détail, ces différents éléments. Notre premier chapitre, après cette rapide introduction, pourrait s'intituler « La lutte finale du christianisme ». C'est-à-dire que c'est la période qui va du début du siècle, et même donc, un petit peu sur le siècle dernier, jusqu'à 313, c'est-à-dire jusqu'à l'édit de tolérance. C'est l'époque, les dernières années, où le christianisme est une religion qui n'est pas reconnue par l'État et qui est même éventuellement combattue. Donc, c'est aussi la période des dernières persécutions. Nous avons vu que dans le courant du 3e siècle, la politique des empereurs romains à l'endroit du christianisme avait été diverse. Qu'il y a eu des périodes, des longues périodes, où l'Église a joui d'une paix relative, d'une tolérance de fait, sinon de droit, qui était due essentiellement au fait que le christianisme se répandait de plus en plus dans les masses et surtout dans l'aristocratie romaine. À partir du moment où une proportion importante de membres de la haute administration romaine étaient chrétiens. À partir du moment où une proportion importante ou une importante minorité de légionnaires dans l'armée étaient chrétiens. À partir du moment où même à la cour de l'empereur, il y avait une minorité importante de chrétiens, il était forcément de plus en plus difficile pour le pouvoir romain de combattre ce qu'il considérait comme une hérésie. Parce qu'il y avait eu des conséquences évidemment trop graves. Si bien que la pénétration du christianisme parmi les élites romaines faisait que, dans les faits, une certaine tolérance s'imposait. D'autre part, il était parfaitement clair, comme nous l'avons vu dans nos dernières études l'année dernière, que les derniers champs du cygne, si j'ose dire, de la philosophie païenne classique ne mordait pas et n'arrivait pas à freiner ni à entamer la progression du christianisme. Le néoplatonicisme de Porphyre et d'autres, n'est-ce pas, n'avait pas réussi à entraver d'une manière durable, d'une manière décisive, la progression du christianisme. Et force a été aux empereurs et avant eux, aux maîtres à penser l'Empire, à ceux qui avaient des responsabilités importantes dans l'Empire, de se rendre compte que le christianisme était la religion d'avenir. Or, quand on envisage cette situation d'un point de vue politique, cela implique un certain nombre de conséquences. À partir du moment où vous vous rendez compte, dans une perspective politique, qu'il y a une force montante, que cette force montante, vous n'arriverez pas, qui est hostile, vous n'arriverez pas à la vaincre, que les forces sur lesquelles vous vous appuyez sur le plan idéologique et sur le plan religieux sont des forces qui sont en déclin, eh bien, la sagesse politique veut que l'on change de cheval de bataille. La sagesse politique veut que l'on tente de s'allier avec la puissance montante, que cette puissance soit un parti politique, que cette puissance soit un courant idéologique, ou bien que cette puissance soit, comme dans le cas du christianisme, un mouvement religieux. Finalement, le pouvoir politique ne s'inquiète pas tellement de savoir quel est le contenu de ce que cette idéologie ou cette foi professe, l'essentiel, c'est le parti qu'il peut en tirer. Et au sein de l'aristocratie romaine, de l'aristocratie impériale, de plus en plus de gens se rendaient compte qu'il était vain de vouloir lutter contre le christianisme, que le paganisme qui avait été promu au rang, notamment au travers du culte de l'empereur, puis du sol invictus, du soleil invaincu, qui avait été promu comme étant le lien, n'est-ce pas, le lien idéologique qui unifiait le monde romain si divers, fait d'une mosaïque de peuples, d'une mosaïque de langues, d'une mosaïque d'ethnies, que tout divisait, et il fallait un ciment dans cet empire romain. Il fallait que tous ces gens, n'est-ce pas, soient liés par un lien commun. Et la politique des empereurs, à partir du IIIe siècle, en particulier même déjà à partir du IIe siècle, mais surtout au IIIe siècle, avait été justement d'utiliser l'élément religieux pour être ce ciment qui unifiait le monde romain. Alors, il était basé essentiellement sur le culte de l'empereur et sur, finalement, ce qu'en était l'émanation, le culte du soleil invaincu, le sol invictus, dont l'empereur était l'incarnation, si on le dit. Et c'est pourquoi les chrétiens, éléments hétérogènes, dans cette société qui autrement était tout à fait harmonisée par ce ciment de la religion, étaient combattus. Mais voilà que, bien loin de freiner l'expansion du christianisme, de plus en plus de citoyens de l'Empire devenaient chrétiens, et il était évident que le paganisme, même revu et corrigé par des gens comme Porphyre et autres, n'est-ce pas, n'était plus capable d'apporter des réponses aux besoins des gens de cette époque-là. Et par conséquent, que vouloir s'obstiner à combattre le christianisme, c'était finalement condamner l'Empire à mort. L'Empire, à cette époque-là, en plus, était décadent, non seulement sur le plan des mœurs, mais également sur le plan politique, car justement, il avait trop intégré de peuples différents en son sein, et il y avait des forces centrifuges importantes qui s'exerçaient. Et puis d'autre part, il y avait des forces centripètes, dans ce sens que, aux frontières de l'Empire, la pression des barbares, comme on les appelait, se faisait de plus en plus importante, que ce soit aux frontières de l'Ouest, avec les Germains, les Goths et d'autres Goths, comme dirait Angélix, mais également aux frontières de l'Est, où les Perses avaient supplanté les Parthes, et où il y avait là aussi une dépression très très importante qui s'exerçait. Alors, de ce fait, les empereurs étaient en train de se rendre compte que, eh bien, s'ils persistaient à combattre le christianisme en s'appuyant sur un paganisme vermoulu, eh bien, l'Empire allait s'écrouler avec le paganisme. Et c'est ce qui a amené, de la part des empereurs, une politique de plus en plus tolérante et de plus en plus bienveillante vis-à-vis du christianisme. Depuis l'édit de tolérance de Galien de 250, dont nous avons parlé, qui avait introduit une paix de 40 ans dans l'Église, il y a eu ensuite même des, des explosions de persécution, mais de plus en plus, la tendance générale était tout de même à l'apaisement. Et c'est ainsi que vers 300, au début du siècle, n'est-ce pas, la situation de l'Église était paisible, si l'on en croit ce que nous dit Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique. Et même si Eusèbe, évidemment, l'encens le pouvoir romain tant et plus, on peut penser, en recoupant les autres informations que nous pouvons avoir, que même présenté d'une manière un peu trop idyllique, en gros, ce que Eusèbe nous dit est à peu près correct. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait de nombreux chrétiens à la cour, de nombreux chrétiens dans l'administration, et de nombreux chrétiens dans l'armée. Déjà, à la fin du IIIe siècle, l'augmentation du nombre des chrétiens est telle dans l'Empire romain que partout se construisent au grand jour des églises nouvelles. Au début, les lieux de culte des chrétiens étaient des maisons particulières, parce qu'on n'avait pas le droit de créer des lieux de culte. Dans les moments de persécution, n'est-ce pas, il y avait d'autres solutions qui étaient prises. Mais essentiellement, à partir du IIIe siècle, et de la deuxième moitié du IIIe siècle en particulier, des églises, des édifices spécialement consacrés au culte chrétien commencent à se construire au grand jour. Donc, en principe, c'est illégal. En principe, les chrétiens n'ont pas le droit de construire des lieux de culte à l'image, d'une certaine manière, des cultes païens. Mais, dans les faits, dans la pratique, c'est toléré. De temps en temps, il y a une explosion de persécution. Et à ce moment-là, on rase quelques églises. Mais le moment de persécution passé, les églises sont reconstruites et on en construit des nouvelles. Et précisément, dans les fouilles archéologiques, un peu partout dans le monde méditerranéen, on trouve à cette période-là des traces de nombreuses églises, ce qui prouve qu'au début du IVe siècle, la situation de l'Église elle-même était une situation à peu près paisible. D'autre part, l'Église aussi a su agir avec une grande finesse, une grande astuce, parce que c'était ruse. L'Église a su utiliser les mérites des martyrs. Et les martyrs, l'héroïsme des martyrs, la bravoure des martyrs, qui dans les périodes de persécution ont subi mille tourments plutôt que de renoncer à leur foi, a été mis en avant. A été mis en avant comme un exemple. Mais en même temps, n'est-ce pas, l'Église s'est montrée d'une très très grande indulgence vis-à-vis de ceux qui, dans les périodes de persécution, reniaient leur foi pour revenir ensuite au christianisme. Et vous le savez, nous avons déjà rencontré cela dans les siècles passés, que ce problème des relapses a été, pour ceux qui étaient épris, justement, de rigueur spirituelle et morale, a été une pierre d'achoppement, a été un grand problème, a été à l'origine de schismes, et le IVe siècle ne sera pas exempt de ce problème-là. Ce problème, la paix de l'Église ne va pas l'évacuer. Bien sûr, lorsque les générations de martyrs vont disparaître, ensuite ce problème cessera d'être un problème dans l'Église du Ve siècle, par exemple. Le IVe siècle, eh bien, c'est encore un grand, grand problème, et il va y avoir des schismes qui vont naître dans l'Église, précisément, sur cette question des relapses. Alors, c'est aussi à cette période-là que va naître, justement, le culte des martyrs, le culte des reliques, de façon, justement, à exercer sur l'esprit du peuple une impression profonde par le récit, justement, des mérites des martyrs. On sait, par exemple, à Rome, dans la seule ville de Rome, au début du IVe siècle, il y avait, dans la seule ville de Rome, une quarantaine d'églises. Quarantaine de lieux de culte chrétiens, plus ou moins importants, plus ou moins grands. Certains d'entre eux sont construits sur le modèle des basiliques, c'est-à-dire par des endroits de rassemblement de peuples, mais pour des raisons laïques, qui n'avaient rien de religieux dans la mentalité romaine. Souvent d'ailleurs, c'était pour des raisons légales, juridiques, etc., des espèces de tribunaux, si vous voulez. C'était tout simplement des édifices carrés qui permettaient un rassemblement important de gens, puisque, à l'inverse des temples païens qui étaient considérés comme la demeure des dieux, par conséquent, qui n'avaient pas besoin d'accueillir un public important et nombreux, les églises chrétiennes, elles, étaient tout simplement des lieux où l'on se rassemblait pour célébrer le culte et pour écouter la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, dès le début de l'architecture chrétienne, les chrétiens ont adopté justement le modèle de la basilique romaine, c'est-à-dire un édifice laïque au départ, n'est-ce pas, qui était tout simplement un lieu de culte.
Au début du IIIe siècle,
déjà au IIIe siècle. Oui, au début du IIIe siècle, on trouve déjà les premières basiliques. Alors donc, à Rome, au début du IVe siècle, il y a 40 églises, 40 lieux de culte différents, plus ou moins importants, qui sont installés dans la ville païenne. D'après la législation romaine, il n'est pas possible de servir dans l'armée et être chrétien. Le soldat qui serait découvert en tant que chrétien est impitoyablement mené au supplice. Et dans les tout premiers siècles de l'Église, on connaît un certain nombre de soldats, voire même d'officiers romains, qui se sont convertis au christianisme et qui ont subi le martyre précisément à cause de cette foi qui était la leur. À partir du IVe siècle, à partir du IIIe siècle, on peut dire, mais surtout au IVe siècle, ceci n'est plus que quelque chose de théorique. La réalité, c'est qu'il y a de nombreux soldats chrétiens dans les légions romaines et que, en principe, les officiers romains, les responsables de l'armée romaine, évitent de trop s'intéresser à la conviction et à la foi de leurs soldats. Bien entendu, si quelqu'un fait un petit peu trop ostensiblement manifestation de sa foi, alors là, évidemment, il y a des problèmes qui naissent. On peut quand même pas, enfin, les officiers romains ne peuvent pas quand même faire autrement. Mais, d'une manière générale, on ne cherche pas trop à approfondir les choses. C'est quelqu'un qui est assez discret quant à sa foi, dans la région romaine, n'a plus à cette période-là de problème. Ce qui peut amener le martyr pour un soldat, c'est finalement seulement l'objection de conscience à cause de la foi en Jésus-Christ. Et on connaît un certain nombre de cas, par exemple, le cas d'un centurion nommé Marcellus, qui un jour a jeté ses armes au cours d'une revue en déclarant qu'il refusait de continuer à servir parce qu'il était chrétien et qu'il voulait simplement porter les armes du Christ. Bon, il a été immédiatement, après un jugement sévère, conduit au supplice. Mais à part des cas extrêmes de ce type-là, il n'y a plus guère d'exemples de martyrs dans les légions romaines. Ce qui prouve bien que dans ce qui était finalement l'endroit le plus fermé, le plus difficile pour vivre sa foi, qu'était la légion romaine, eh bien, les choses se sont considérablement affaiblies, ce qui laisse supposer que dans le reste du monde romain, l'administration, puis la vie quotidienne finalement, eh bien, ceux qui vivent tranquillement leur foi, eh bien, ne sont finalement plus inquiétés. Et c'est alors que le 23 février 303, alors là, dans ce tableau presque idyllique, si j'ose dire, eh bien, dans ce ciel bleu, va éclater un coup de tonnerre terrible. On apprend que en Nicomédie, où se trouve l'empereur, une église a été rasée sur l'ordre de l'empereur. Et le lendemain, l'empereur fait afficher sur les murs de la ville l'édit qui interdit aux chrétiens la poursuite de leur culte. Indigné par cet édit brutal, un chrétien de l'endroit arrache ostensiblement les affiches qui sont placardées sur les murs du palais de l'empereur. Et il est le premier des martyrs de la dernière persécution la plus dure, qui sera celle du christianisme avant la paix de l'Église, la persécution de Dioclétien. Dioclétien qui va entrer dans la légende comme un être qui surpasse Néron au point de vue des persécutions. Comment en est-on arrivé là? Comment cet empereur peut-il soudain revenir sur toutes ces choses? Eh bien, nous avons de cette période-là un certain nombre de sources. D'une part, celle d'un certain Lactance, qui a été témoin oculaire de ces choses, qui était professeur d'éloquence, et Eusèbe de Césarée, qui nous fait le récit de l'histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à Constantin, justement, dans un gigantesque ouvrage qui est aujourd'hui les sources de base de toute l'histoire de l'Église pendant les premiers siècles, qui s'appelle l'histoire ecclésiastique, par laquelle j'ai déjà fait allusion. Et c'est ainsi que dans son huitième volume, dans le huitième volume de son Histoire ecclésiastique, Eusèbe de Césarée nous donne par le menu le récit de cette terrible persécution et la manière dont elle est venue justement sur les chrétiens progressivement. En fait, d'après ce que nous dit Eusèbe, bien entendu, il faudra nuancer un petit peu cela, parce que Eusèbe est chrétien, et par conséquent, non pas qu'il mente obligatoirement, mais enfin, il voit les choses dans une optique chrétienne. Donc, Dioclétien était un empereur païen, et il n'avait pas voulu, un jour, il avait voulu consulter un oracle, comme le faisaient les païens. L'oracle consistait, dans la pratique immémoriale des Romains, à sacrifier un animal, et ensuite le prêtre examinait les entrailles de l'animal, notamment le foie, puis en tirait des conclusions. Et là, paraît-il, d'après Eusèbe, n'est-ce pas, que l'oracle n'avait pas donné de réponse à Dioclétien. Et cette réponse n'avait pas été donnée parce qu'il y avait parmi l'assistance qui assistait à ce sacrifice, des chrétiens, qui, au moment où le sacrifice avait été offert, avaient fait le signe de la croix, ce qui avait neutralisé les démons par lesquels les prêtres païens lisaient dans les entrailles des animaux, si bien que plusieurs animaux sacrifiés les uns après les autres n'avaient pas donné de réponse à l'empereur. Et l'empereur avait fait une enquête pour savoir pourquoi l'oracle avait refusé de répondre. Et on avait conclu que c'est parce qu'il y avait des chrétiens qui avaient, par le signe de la croix, vous voyez tout de suite comme c'est, ça vole haut, théologiquement, n'est-ce pas, ils avaient neutralisé ainsi l'influence des démons. Et cette situation avait fait que Dioclétien avait pourchassé tous les chrétiens qui étaient à la cour, et le premier temps de la persécution avait été d'écarter, chasser les chrétiens de tous les postes qu'ils avaient à la cour, et dans un deuxième temps de l'armée. Dans son dessein contre les chrétiens, Dioclétien avait été soutenu par un des Césars. Souvenons-nous qu'à cette époque-là, l'Empire qui était devenu énorme, n'est-ce pas, avait connu un remaniement administratif important, et qu'il était divisé finalement en deux grandes échelles administratives, l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. L'Empire d'Orient de langue grecque et l'Empire d'Occident de langue latine. Et pour administrer ces deux parties de l'Empire, il y avait à la tête de l'Occident et de l'Orient ce qu'on appelait un Auguste, qui avait sous ses ordres un César. Et Dioclétien, qui était Auguste, avait sous ses ordres un César qui se nommait Galère. Et ce Galère était un homme qui était animé, toujours d'après Eusèbe, d'une haine absolument terrible contre les Romains. C'était dû au fait qu'il avait pour mère, je crois, sa mère était une adoratrice de Cybèle, la déesse, et qui, ce faisant, cherchait à promouvoir le culte de cette déesse. Galère était un homme borné, obtus, étroit, qui ne rêvait justement que de promouvoir les cultes païens, notamment celui dont sa mère était grande prêtresse. Dioclétien était quand même un peu plus intelligent que son César, et lui, ce n'est pas volontiers qu'il voulait combattre le christianisme, parce qu'il se rendait bien compte que, encore une fois, le christianisme était la puissance montante, et que s'aligner le christianisme était en fait une faute politique importante. Néanmoins, les choses se sont dégradées en sorte que Dioclétien lui-même, semble-t-il, à son corps défendant, ou du moins avec une certaine hésitation, disons, a fini par rejoindre ce que Galère lui proposait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Dioclétien, lui, rêvait à une restauration de l'ancienne religion païenne, ça c'est clair. Mais il aurait aimé que cette restauration-là se fasse en douceur et sans effusion de sang. C'est pourquoi, par exemple, au moment du fameux incident du sacrifice, il avait chassé les chrétiens de tous les postes qu'ils occupaient, mais il avait demandé qu'il n'y ait pas d'effusion de sang, si ce n'est celle de ce malheureux chrétien qui avait arraché les affiches sur le palais du roi, de l'empereur. En tout cas, les choses se sont dégradées parce qu'aux frontières de l'Est, eh bien, la pression des Perses se faisait de plus en plus forte. Les Perses était un peuple, disais-je, qui avait supplanté les Parthes quelques années auparavant et qui avait surtout une religion nouvelle, qui avait unifié l'Empire perse à partir d'une religion nouvelle, le manichéisme. Le manichéisme était une religion qui va laisser des traces importantes un peu partout, notamment justement dans le christianisme de cette époque-là, et nous verrons justement qu'il y aura des hérésies manichéennes au sein de l'Église chrétienne elle-même, et on retrouvera cette hérésie jusqu'en plein Moyen-Âge, avec l'hérésie cathare par exemple. Mais les manichéens étaient des gens qui, pour lesquels il y avait dans le monde deux dieux. Le dieu du bien et le dieu du mal. Le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres, qui étaient de force égale et qui se combattaient. Et par conséquent, il était indispensable de prendre le parti du dieu du bien contre le dieu du mal dans le combat finalement religieux qui était le leur. Et cette religion avait eu un succès important en Perse. Et les manichéens, les Perses manichéens, à l'époque de Dioclétien, menaçaient les frontières orientales de l'Empire. Dioclétien avait été amené à intervenir d'une manière brutale aux frontières pour rétablir l'ordre, mais la pénétration des Perses ne se faisait pas uniquement par la force des armes, mais également justement par la religion. Et par l'intermédiaire de la diffusion de la religion dans les régions orientales de l'Empire, les Perses essayaient de créer ce qui était considéré par les Romains comme une espèce de cinquième colonne, des gens qui étaient donc favorables aux Perses parmi les Romains et que les Romains considéraient donc comme des Perses, comme des traîtres. Et c'est pourquoi, devant ce danger très réel qui menaçait son empire, Dioclétien a demandé que l'on prenne des mesures radicales à l'endroit des manichéens qui se trouvaient dans son empire. Et ainsi, tout un train de mesures, tout un train de lois ont été publiées par l'empereur pour réprimer les manichéens, au besoin par la force. Alors on comprend très bien, évidemment, qu'à partir du moment où l'instrument de la persécution existait pour les manichéens, eh bien, on n'était pas loin d'employer ce même instrument légal à l'endroit des chrétiens. Et c'est ce qu'avait compris un homme comme Galère, qui, lui, justement, ne décollait pas et souhaitait vivement que l'on continue dans cette voie-là, en persécutant cette fois-ci non plus seulement les manichéens, mais également les chrétiens. Et c'est ainsi que nous arrivons à ce fameux 23 février 303, qui est le point de départ de la grande persécution contre les chrétiens. Peut-être que l'incident que Eusèbe retrace dans son histoire ecclésiastique n'explique pas tout. Peut-être est-il une part de vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était la suite logique de ces persécutions qui avaient été commencées contre les manichéens. L'édit demandait que l'on arrête les chrétiens qui pratiquaient ouvertement leur foi, que les églises soient détruites et les bibles brûlées, ce qui a eu lieu dans la capitale de l'Empire. L'empereur considérait qu'il était intolérable que des gens dans son empire se donnent le droit de régler leur conduite d'après leurs propres lois et que les chrétiens rassemblent des gens dans des communautés. Voilà le grand crime que Dioclétien imputait alors aux chrétiens. Jusque maintenant, la persécution n'était pas violente. Elle s'était tout simplement, sur le plan administratif et légal, que la persécution avait lieu. Mais voilà que quelques jours plus tard, le feu a éclaté dans le palais impérial. Pour une raison mal élucidée, mais il est évident que des gens particulièrement malveillants ont eu vite fait d'accuser les chrétiens d'être à l'origine de cet incendie, notamment pour avoir cherché à se venger des mesures que Dioclétien avait prises à leur endroit. Et comment ?
Ça me rappelle quelqu'un, Néron, il y avait
la même chose. En tout cas, ce qui suit immédiatement cet incendie, c'est qu'une enquête est prescrite par l'empereur. Une enquête qui est menée avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire la question, la torture, pour faire parler les prévenus, et un certain nombre de chrétiens, déjà à ce moment-là, meurent sous la torture. N'est-ce pas ? Tout simplement parce qu'ils n'avaient rien à dire, parce que, eh bien, était absolument innocent dans cette affaire. Et c'est ainsi que les premiers martyrs de la grande persécution de Dioclétien sont conduits au supplice. Mais ce qui était extrêmement difficile pour Dioclétien de supporter également, c'était que le christianisme avait atteint sa propre famille. Elle avait atteint sa propre femme, l'impératrice Prisca, et une de ses filles, Valéria, qui était chrétienne. Évidemment, pour l'empereur, c'était quelque chose d'inacceptable et d'intolérable. Et dans la suite de cet incendie qui a eu lieu dans le palais de l'empereur, Prisca et Valéria ont été placées devant un ultimatum, ou bien elles abjuraient, ou bien elles étaient elles-mêmes suppliciées. L'empereur était allé jusque-là. Devant le danger qui les menaçait, ces deux femmes ont préféré abjurer. Par contre, l'évêque de Nicomédie, la capitale, a été décapité dans comme un des premiers martyrs, donc après ceux qui avaient péri sous la torture. Et des mesures de répression sanglante ont été publiées maintenant dans tout l'Empire. Et ce qui est le point essentiel de cette persécution qui tranche parmi toutes les autres, c'est que c'était une persécution générale, qui intéressait l'ensemble du monde romain. L'empereur avait donné l'ordre d'éradiquer définitivement la foi chrétienne partout où elle se trouvait, de la traquer jusque dans ses derniers retranchements. Très vite, les prisons se sont remplies de chrétiens qui étaient menés dans les supplices les plus épouvantables. Ce qui est aussi, d'après Eusèbe, la marque de cette persécution, c'est que, non content d'employer les supplices employés, utilisés jusqu'alors dans les persécutions précédentes, Dioclétien et ses sbires ont inventé des supplices nouveaux et raffinés, notamment avec le feu, les gens étaient rôtis, etc., pendant des conditions absolument épouvantables. Les premières victimes de cette rafle ont été les clercs, les responsables des communautés, qui ont été d'abord, dans un premier temps, incarcérés, et dans un deuxième temps, l'empereur a ordonné que l'on les contraigne à sacrifier aux idoles. Ceux qui refusaient, d'abord étaient torturés pour les contraindre à sacrifier aux idoles, et ceux qui, malgré tout, sous la torture, refusaient de sacrifier aux idoles, finissaient finalement par être massacrés. C'est ainsi que Zeb nous raconte que dans la ville d'Antioche, un épouvantable massacre a eu lieu, non seulement de clercs, mais de chrétiens dans leur ensemble, qui ont été, toute la communauté d'Antioche, du moins la majorité de la communauté d'Antioche a été massacrée, un certain nombre ont réussi plus ou moins à s'échapper, mais une grande partie de cette communauté a été décimée. Eusèbe nous dit que la furie de Dioclétien était telle que même les cadavres étaient punis. Les cadavres étaient déterrés, brûlés, jetés à la mer, etc., dans une folie absolument incroyable, dans un délire de furie criminelle. À Carthage aussi, il y a eu des massacres importants, entre 304 et 306 essentiellement. C'est ainsi que 49 personnes dans une toute petite communauté ont été arrêtées et immédiatement exécutées parce qu'elles s'étaient rassemblées dans cette communauté pour célébrer la Sainte-Seine. En tout cas, Eusèbe et Lactance insistent sur le nombre extrêmement élevé de victimes qui ont eu lieu pendant ces quelques années de persécution qui atteint une rare intensité. En 304, le quatrième édit est publié par l'empereur, au terme duquel tous les chrétiens de l'Empire, sans exception, doivent sacrifier aux idoles. Et à la fin de cette année-là, alors que les agents du gouvernement s'appliquent à faire respecter cette mesure, voilà que Dioclétien tombe malade, gravement malade, au point qu'on peut douter qu'il en échappera. Bien entendu, les chrétiens voient dans cette mesure un jugement de Dieu et certainement une réponse aussi à leur prière. Mais Dioclétien en réchappe et l'année suivante, il se rétablit, mais il est tellement affaibli par sa maladie, qu'il décide d'abdiquer. Donc en 305, il abdique dans une cérémonie solennelle, en faveur donc de Galère, ce qui n'est pas évidemment pour les chrétiens, pour les rassurer, loin s'en faut. Mais Galère, qui est nommé Auguste à ce moment-là, choisit un César qui se nomme Constance. Constance, qui a un fils, le futur Constantin. Constance, lui, est un homme qui a approché les chrétiens d'assez près, qui devient donc César de Gaule essentiellement, de la région occidentale de l'Empire, la Gaule, la Grande-Bretagne, tandis qu'à Rome, on trouve un autre César qui se nomme Maxence. Mais Constance, puis Constantin qui lui succédera, son fils, est un homme qui, à Lutèce en particulier, où il a résidé pendant un certain nombre d'années, a rencontré de nombreux chrétiens et qui a une vision tout à fait différente de Dioclétien en ce qui les concerne. Mais en même temps, Constance est un homme qui a aussi une sagacité et une finesse politique plus grande que Dioclétien, qui se rend compte que l'entreprise de Dioclétien a échoué en fin de compte et que les chrétiens sont plus nombreux que jamais. Les chrétiens sont plus résolus et plus déterminés que jamais, et que le néoplatonicisme, qui est la religion officielle de Constantin, de Dioclétien plutôt, ne mord pas, ne parvient pas à prendre la place du christianisme. Alors Constance, lui, comprend au contraire que l'avenir est du côté du christianisme et qu'il vaudrait mieux essayer de ménager le christianisme pour s'allier avec lui, précisément, pour arriver à ça. Dans le même temps, dans la partie